Avant de lire les Écritures, nous prions. Avec Ésaïe. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Nous lisons maintenant dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 4, versets 6 à 18. Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation.
Et nous lisons encore dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui, justifié, plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé.
Cette prédication va contenir deux parties. La première, je l'ai intitulée « Si la perfection n'est pas de ce monde, le chemin vers l'accomplissement est sous tes pieds ». J'aurais pu l'intituler aussi « Comment les paraboles de l'Évangile ne te laisseront jamais tranquille ». La seconde partie sera plus terre à terre, plus courte aussi, et je l'ai intitulée « Comment nos pratiques spirituelles peuvent-elles devenir un témoignage pour les autres ? Comment les paraboles de l'Évangile ne te laisseront jamais tranquille ? Si je pose d'emblée la question du comment, il va de soi que cette fois, je vais employer des formules telles que « il faut », « nous devons », « il faudrait », « nous devrions ». Ce n'est pas mon habitude, mais cette fois, il y aura ce type de formule. Nous devrions d'abord prendre les textes bibliques au sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais bien que nous prenons, tous autant que nous sommes, les textes bibliques au sérieux, sinon que ferions-nous ici et maintenant ? Mais prendre au sérieux les textes bibliques, c'est d'abord les prendre tels qu'un croyant, et en particulier un croyant protestant, est censé d'abord les considérer. Prendre au sérieux un texte biblique, pour un croyant, ce serait d'abord accepter que l'esprit qui est à la source de son inspiration à ce texte puisse venir lui parler à ce croyant et lui parler de personne à personne. Quand je dis un croyant, cela pourrait être une assemblée. Quand je dis j'attends d'abord d'un texte biblique qu'il me parle, je pourrais aussi bien dire qu'il nous parle ou qu'il nous parle à chacun. Prendre un texte biblique au sérieux, ce ne serait donc pas d'abord vouloir de lui qu'il nous instruise, tel un professeur, avec une distance pédagogique respectable, pas d'abord qu'il nous indique des codes pour, par exemple, classer, catégoriser, nommer, comprendre le monde et les autres. Ce sera ça aussi, peut-être, ils deviendront, oui, peut-être, forcément des textes utiles, des textes outils, mais pas d'abord. D'abord, ce devrait être une forme d'interlocution. Prendre au sérieux un texte biblique, ce serait d'abord faire en sorte qu'il nous parle, et pas d'abord qu'il nous permette de trancher, de catégoriser, et voir, dans le pire des cas, à accuser. Et là, on commence à se rapprocher du texte biblique du jour. J'ai mis à dessein, en lien, ces deux derniers termes, catégoriser et accuser, en me référant au fait qu'en grec, le verbe catégoréo signifie accuser. Méfions-nous, dès lors que nous aurions tendance, à l'aide de textes bibliques, à nous mettre à catégoriser les gens, car nous ne serions jamais loin de l'accusation. Accusateur, c'est un métier. Dans notre système judiciaire, cela s'appelle un procureur qui, après l'obtention de son baccalauréat, a 4 ans pour préparer un master 1 en droit ou un diplôme de Sciences Po, par exemple, puis qui doit faire une formation, après avoir passé un concours, de 31 mois à l'École nationale de la magistrature, et je parle sous contrôle, évidemment. En hébreu, l'accusateur se dit le Satan. Mais à ma connaissance, le Satan n'a pas fait d'études. Et ce manque ferait plutôt de lui un diffamateur, comme des millions de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et aussi comme, hélas, beaucoup de prédicateurs, hélas, de l'Évangile, qui souvent accusent et diffament, parfois en toute innocence et parfois avec une vraie intention de nuire. Notre parabole du jour offre une voie royale pour catégoriser, comme je viens de le faire. Parce que, attention au sous-texte de cette prédication. Il y a un pharisien, donc quelqu'un d'officiellement catégorisé comme bien dans la société. Et il y a un collecteur de taxes, quelqu'un d'officiellement catégorisé comme faisant partie de l'ali de cette société, puisque, juif, il collecte des taxes pour les Romains, qui sont les occupants, et c'est un traître. La parabole, instruite par l'évangéliste Luc dans son prologue, quand il dit « pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres », eh bien, la parabole nous permet d'immédiatement comprendre, et c'est sursignifié, que le bon de ce texte n'est donc pas ce pharisien qui catégorise allègrement les autres en priant et disant « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, qui sont rapaces, qui sont injustes, qui sont adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes, mais que c'est bien ce collecteur de taxes qui est le bon, puisqu'il se frappe la poitrine, en priant de cette façon, « Ô Dieu, prends-en pitié le pécheur que je suis. » Sans doute que cette parabole pour Luc servait d'indication morale et d'avertissement face aux divisions de l'Église du temps de Luc, c'est-à-dire 50 ans après Jésus-Christ. Quand les croyants au Christ d'origine juive semblaient ne pas reconnaître d'autres croyants au Christ d'origine païenne, et chacune de ces catégories étant ici respectivement représentée 50 ans plus tard par ce pharisien, au comportement ostensible, et par ce collecteur de taxes qui se frappe la poitrine. Alors oui, peut-être que l'utilisation de cette parabole, donc outil, a pu être utile au message de Luc à son époque, mais peut-être qu'il faut se rappeler une fois de plus que les paraboles qui ont été émises par la bouche de Jésus à son époque, à lui, étaient beaucoup plus libres que ça, et que ce serait sans doute bien pour nous de les considérer ainsi libres, pour qu'elles nous parlent à nous qui les entendons. Cette parabole dessine en fait une boucle qui va nous ouvrir vers un chemin infini. Et c'est en cela peut-être que cette parabole se met à nous parler avec un langage plus subtil que prévu. Oui, dans un premier temps, nous comprenons bien qu'il ne s'agirait pas pour nous d'aller prier comme ce pharisien, mais plutôt il s'agirait d'agir comme ce collecteur de taxes qui ne se vante pas d'être meilleur que les autres et se reconnaît lui-même comme pécheur. Mais c'est à ce moment-là que la boucle se met en place, et elle est sans merci, cette boucle. Si nous nous arrêtons là, nous pourrions finir par dire ou prier de cette façon « Merci Seigneur de m'avoir fait comprendre que je ne dois pas prier ostensiblement en jugeant les autres. Merci Seigneur de m'avoir fait saisir que je ne dois pas être comme cet horrible pharisien de la parabole. » Et nous serions donc revenus au point de départ. Est-ce que vous la sentez maintenant, cette boucle? Et ce que cette boucle fait, c'est nous dire que même si nous croyons trouver le bon et juste moyen, par exemple, de prier, il pourra se produire une tendance à l'autosatisfaction, il pourra surgir le désir de nous comparer à d'autres qui feraient moins bien que nous, et Dieu sait que cela pose des problèmes partout, et pas uniquement dans le domaine de la prière, et pas uniquement dans les églises. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de faire pour la deuxième fois? Je suis en train de commencer à catégoriser des gens qui ont ce type de comportement, d'avoir dénoncé le comportement d'un autre et de se retrouver lui-même sans s'en rendre compte au même point. Alors, boucle infinie, on va jamais s'en sortir, mais oui, on va s'en sortir. La seule solution pour nous sortir de cette boucle satanique, au plein sens du terme, serait effectivement de considérer que la perfection n'est pas de ce monde, mais que le chemin vers l'accomplissement est sous nos pieds. Pour éviter de basculer dans l'auto-satisfaction accusatrice, il faut simplement continuer à marcher. Il faut, dès qu'on a trouvé un point de stabilisation, ne pas s'y établir, mais le remettre en question, en se redéséquilibrant, puisque c'est ça marcher, se déséquilibrer en permanence, et ensuite continuer sur ce chemin dont nous avons la foi que c'est le Seigneur qui nous l'indique, ce chemin, en vue de notre progression. Ce n'est pas le chemin pour trouver Dieu, évidemment, car celui-ci nous a déjà trouvé et nous a déjà fait cette grâce. C'est simplement le chemin de notre vie qui, pour les croyants, est une vie spirituelle, c'est-à-dire supposée, y compris dans sa pure matérialité, être animée par le souffle de Dieu. Peut-être qu'un jour nous pourrions affirmer, comme l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, que vous avez entendu lire par Michel tout à l'heure, peut-être que nous pourrions dire, que nous pourrons dire comme Paul, pardon, « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et franchement, j'aime beaucoup cette phrase, surtout dans son rythme ternaire comme ça. « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Mais en attendant, rien n'est accompli et il est hors de question de s'arrêter. Oh, certes, c'est dur, mais pas tant que ça. Il ne s'agit pas de renier à chaque pas supplémentaire ce que nous aurions découvert au pas précédent, il s'agit d'avancer avec tout ce que nous avons découvert précédemment. Les disciples du Christ ont été appelés très tôt, regardez dans votre Nouveau Testament, ils ont été appelés les adeptes du chemin. Et ce n'est sans doute pas sans raison. Nous sommes donc prêts à aborder la seconde partie, qui sera beaucoup plus courte, parce qu'elle aura été, je l'espère, un peu nourrie par ce qui précède. Une partie que j'ai intitulée donc « Comment nos pratiques spirituelles pourraient-elles devenir un témoignage pour les autres ?» C'est simple. Comme je l'ai dit, tenté de le dire dans la première partie, déjà en reconnaissant ces pratiques comme évolutives et non pas comme une forteresse ou des forteresses nous permettant d'observer et de juger les autres qui n'ont pas les bonnes pratiques. Mais ensuite, tout simplement, et c'est là le sens de la seconde partie, en les assumant véritablement, ces pratiques, nos pratiques. Il y a une grande différence entre pratiquer ostensiblement, se conduire comme si notre pratique était la norme à laquelle les autres devraient se conformer, et assumer pleinement notre pratique. Participer au culte, par exemple. En voilà une de pratique. Et l'assumer complètement. Pour l'assumer, comment faire ? L'assumer complètement, je veux dire. Comment faire ? Il faudrait déjà apprendre à savoir ce qu'est un culte. D'où il vient ? Quelle est, comme disent les intellectuels, son archéologie ? De quoi il se compose ? Comprendre le sens et la succession de ces parties liturgiques qui ont été lues tout à l'heure par Claire. Comment faut-il, pourquoi faut-il, faudrait-il un pasteur ou une pasteur saisir la place particulière de la prédication? Comment se fait-il qu'au milieu de paroles universelles, communes, communautaires, surgisse tout à coup une parole singulière, inventée et portée par une personne particulière? Il faudrait aussi se pencher, réfléchir sur la nécessité de la musique, son rapport à la parole, comment toutes les deux, parole et musique, se conjuguent, et ayant ainsi investigué, avoir enfin bien saisi que si le culte est essentiellement un moment de communion avec Dieu et une assemblée de ses fils et filles adoptives, eh bien ne plus continuer à penser qu'il s'agirait d'un événement mystérieux, d'un phénomène de crypte ou d'initié. Ainsi, nous pourrions aisément inviter nos amis à y participer en sachant quoi leur dire, tout simplement. C'est quoi un culte ? Ben, je vais te le dire. Sachant quoi leur dire, auparavant et ensuite. Et sans préjuger de leur croyance, tout simplement parce que ce sont nos amis et que c'est normal pour un ami d'inviter un ami à ce qui, pour nous, est important et que nous connaissons. Il ne faut pas inviter vos amis avec la peur de ce qui va se passer. Ainsi, la prière, assumer complètement de prier, eh bien, c'est décider d'assumer complètement, de croire en Dieu et de considérer celui-ci comme un interlocuteur de personne à personne. Ainsi, nous pourrions parler normalement du fait que, oui, nous prions, mais que nous aurions eu et qu'il y a diverses façons de le faire, collectivement, individuellement, parfois même sans employer de mots, parfois juste en écoutant un passage musical ou même dans la pure contemplation. L'important est, en sachant vraiment ce que nous faisons, d'assumer que nous le faisons, et ainsi il deviendra beaucoup plus naturel d'en parler à d'autres et d'échanger, et disons le mot enfin, de témoigner et même d'évangéliser. Ainsi, notre pratique d'étude de la Bible, ainsi toutes nos formes de pratiques liées à notre foi, y compris celles qui prennent la forme d'un engagement de solidarité, toutes formes de pratiques qui ne sont pas, d'un point de vue en tous les cas protestant, des normes, mais qui sont liées à notre liberté de chrétien en train de cheminer, à notre liberté même d'église en train de cheminer et d'évoluer. Il faut juste l'assumer pour nous, assumer pour nous la diversité même de notre pratique, ce qui permet ensuite, beaucoup plus facilement, d'en parler et donc de témoigner de cette façon libre de marcher sur notre chemin de croyant. Amen.